Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Nos assiettes sont le condensé d'un monde stratifié et nous l'ignorons souvent. Beaucoup de ce que nous croyons d'ici vient d'ailleurs, la tomate, le blé ou le café pour en citer quelques-uns. Et pourtant, malgré cette longue histoire de mobilité et de circulation, nous fabriquons autour de la cuisine des récits d'enracinement et d'identité que l'on dit immuables. C'est dans cette tension entre le mouvement du monde et la solidité des traditions que se joue notre façon de manger. Alors pour comprendre ce que nos assiettes racontent vraiment, nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui sait dire ses strates et éclairer ses contradictions, le géographe et gastronome Jean-Robert Pitt. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques et vous avez publié cette année notamment À la table de l'histoire et du monde aux éditions Talendier. Alors ce que vous démontrez dans ce livre avant tout peut-être, c'est que l'alimentation est l'une des meilleures portes d'entrée pour penser la géographie.
Il y a plein de moyens d'entrer dans la géographie. Dès qu'on marche dans la rue, on fait de la géographie. Parce que les maisons ne se ressemblent pas, telle rue ne ressemble pas à telle autre. Ici, on est face à la Seine. Bon, voilà, on a un paysage dont on pourrait parler des heures. Hein. Simplement, ce que je vois de la fenêtre du studio, on pourrait en parler des heures en géographe. On pourrait en parler en historien d'art, puisqu'on a aussi la cour carrée du Louvre devant nous. Mmh. On a un quai avec une grande circulation. Bon, on peut tenir plein de propos avec plein de disciplines différentes, mais en géographe, j'aurais plein de choses à dire sur ce que je vois dans la petite lucarne. Il se trouve que moi, lorsque j'étais petit, je voulais être cuisinier, que je me suis toujours passionné pour ce que j'avais dans mon assiette et dans mon verre, parce que c'était une tradition familiale, que j'avais une aïeule qui avait été cuisinière et qui avait élevé ma mère. Donc, pour plein de raisons personnelles, ça fait partie de la culture familiale et j'aime bien cuisiner. Et comme en tant que géographe, j'ai parcouru la planète entière à maintes reprises dans beaucoup de pays du monde, enseigné dans beaucoup de pays, une des choses qui m'intéresse, c'est pas le cas de tous les géographes, hein, mais une des choses qui m'intéresse, c'est, ah bah tiens, dans ce pays, dans cette région, dans cette ville, on mange ça, j'avais jamais mangé ça, pourquoi ? D'où ça vient ? Et donc, j'ai toujours eu cette curiosité de comprendre l'origine des plats ou des vins ou des boissons que je consommais et de tirer la ficelle pour voir quel univers géographique se trouve derrière chaque ingrédient, chaque plat cuisiné, chaque boisson. Pour moi, c'est un univers, mais comme n'importe quel univers. Au début de ma carrière, j'avais beaucoup travaillé sur les paysages. C'est aussi une entrée en géographie. Il se trouve que dans ma personnalité, j'aime plutôt les choses partir du concret. Je ne suis pas un grand mathématicien, mais je n'ai pas une grande capacité d'abstraction. Mais je sais que derrière le concret, le matériel, il y a des univers complexes qui m'intéressent beaucoup, que j'essaye d'explorer.
Donc c'est une entrée comme une autre, en tout cas, vous.
Voilà. Mais moi, c'est l'entrée qui me fait fantasmer. Qui me fait plaisir et qui m'aide à supporter la vallée des larmes.
Donc, on comprend bien que dans une assiette, voilà, il y a tout un condensé d'histoire et de lieux, de géographie. Si on prend un repas typique d'un Français en 2025, le pourcentage des aliments réellement autochtones, en réalité, serait très faible. Si on prend le petit déjeuner, par exemple, à part le lait, le beurre...
Le petit déjeuner est un très bon exemple parce qu'on fait appel à des produits la plupart des Français font appel à des produits venus souvent de fort loin. Donc, comme vous dites, le lait, le beurre et la farine qui sert à faire le pain, et la farine est souvent française, mais pas toujours.
Oui, elle peut être importée.
Et puis, en revanche, dans le reste des boissons, on fait appel au monde entier avec le chocolat, avec le thé, avec le café, qui ne pousse pas sur notre territoire métropolitain. Et il n'y en a pas beaucoup dans les dom-toms. Donc, on fait appel. Le petit déjeuner est ancré dans la mondialisation, aujourd'hui, par les produits qu'on achète. Mais je peux vous permettre de prendre un autre exemple d'un plat qui passe pour emblématique de la France, et en particulier du sud-ouest français, c'est le cassoulet. Or, le cassoulet, aujourd'hui, la plupart des ingrédients qui entrent dans la composition d'un cassoulet sont produits en France, et souvent dans le sud-ouest de la France, mais moi j'aime beaucoup combiner l'histoire et la géographie, quand on cherche à comprendre la recette, on s'aperçoit que le haricot, c'est un mot aztèque, haricotle, donc ce sont les aztèques qui ont cultivé les premiers les haricots, puis les conquistadors ont introduit les haricots en France et en Europe, lesquels ont remplacé petit à petit les fèves et des ancêtres des haricots européens qu'on appelle les doliques, avec un petit œil noir, mais qui n'ont pas du tout le même goût, qui poussent facilement, mais avec des très petits rendements. Donc le haricot, c'est vraiment une révolution dans la cuisine arrivée d'Amérique. Qu'est-ce qu'on met dans le cassoulet? On met aussi, alors dans certaines recettes, il y a de la tomate. La tomate, c'est aussi un mot aztèque, hein, tomatle. Et c'était d'abord une plante ornementale en Europe, parce que c'était joli, ces fruits rouges, mais on n'osait pas la manger. Et puis petit à petit, au XVIIIe siècle, on a commencé à la manger, à la faire entrer dans la cuisine et dans toutes les cuisines méditerranéennes et maintenant du monde entier. Par ailleurs, il y a du canard ou de l'oie qui souvent sont des animaux qu'on engraisse l'automne, parce que spontanément, ces animaux ont tendance... Avant, ils étaient migrateurs, donc ils se engraissaient le foie pour avoir des réserves pour migrer. Et maintenant, on le fait avec du maïs. Alors, le maïs, c'est une plante typiquement américaine, là aussi, au cœur des civilisations précolombiennes, en particulier donc du Mexique. Oui. Voilà, donc le cassoulet, et puis parfois on peut mettre un peu de piment, et le piment vient aussi du Mexique, donc c'est un plat mexicain, le cassoulet.
Il y a un autre plat aussi qu'on peut citer en exemple, alors je ne sais pas si on peut parler d'un plat à part entière, mais les frites, la frite belge, les French fries, donc ouais. Elles sont profondément ancrées dans la culture européenne, et pourtant, la pomme de terre...
La pomme de terre vient du Pérou, vient de l'altiplano andin, et c'est ce qui a permis une grande civilisation, qui est la civilisation des Incas, avec des dizaines, des centaines de variétés de pommes de terre là-haut, et on en a domestiqué quelques-unes, introduites en Europe, cultivées, mais vous avez beaucoup de plats régionaux français sont à base de pommes de terre, le gratin dauphinois, le gratin savoyard, l'aligot, la purée qui est plutôt emblématique de Paris, maintenant tout le monde en fait partout, mais ce mélange d'une pomme de terre écrasée avec du beurre, voire beaucoup de beurre, comme faisait Joël Robuchon, où c'était pratiquement moitié pomme de terre, moitié beurre, voilà, c'est un résultat du mariage entre la culture occidentale, avec une matière grasse qui est le lait entier, le beurre, la crème éventuellement, et la pomme de terre qui vient de la cordillère des Andes. Et tout ça, c'est un bon exemple de ce qu'est l'histoire et la géographie culturelle, pour ceux qui s'intéressent aux langues, les mots de nos langues sont des mots qui viennent souvent de très très loin, puis qui rentrent dans le langage courant, qui sont domestiqués, là aussi, apprivoisés, et dont on oublie complètement, alors il y a plein de spécialistes, y compris au sein de l'Institut, dont on oublie qu'ils viennent de fort loin, et d'un passé très 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 ancien, souvent.
En fait, l'histoire de l'alimentation, c'est un peu une histoire d'import-export. On reçoit, on donne...
Et on donne aussi, parce que la France a beaucoup exporté, beaucoup de plats qu'on trouve dans le monde entier viennent de la cuisine française. Enfin, donc c'est vraiment un magnifique exemple d'histoire et de géographie culturelle, c'est-à-dire des échanges incessants. Alors aujourd'hui, avec la mondialisation et le fait que l'information circule à toute vitesse partout autour de la Terre, ça va encore plus vite. Qui aurait pu penser, je dirais avant la Seconde Guerre mondiale, que le couscous deviendrait un des plats favoris des Français? Qui aurait pu penser que le pays où il y a le plus d'établissements de cuisine rapide, pour ne pas dire fast-food, vous voyez que je fais attention, de cuisine rapide d'une entreprise créée aux États-Unis, pour ne pas la nommer McDonald's, c'est la France. C'est en France qu'il y a la plus grande consommation de ces hamburgers, le mot hamburger venant de Hambourg en Allemagne, passé par...
Donc là, encore une fois, on voyage.
Oui, on voyage. Et qu'il y ait un restaurant, je vous à peine appeler ça restaurant, enfin en tout cas, une officine McDonald's au sein du musée du Louvre, c'est très étonnant. Mais ça, c'est l'histoire culturelle du monde.
Alors j'en viens aux frites. Alors la frite, elle est belge ou elle est française?
Elle est les deux. C'est une de ces cuisines de rue. Comme on cultive beaucoup les pommes de terre dans le nord de la France et en Belgique, donc elle est revendiquée par les deux pays, mais peu importe si elle était inventée pour la première fois, c'est une cuisine inventée en particulier dans les fêtes populaires, dans les Ducasses, il y en a autant dans le nord français que en Flandre et en Belgique, et l'idée de les tailler en bâton, c'est que ça se tient facilement avec les doigts, ça se mange avec les doigts. Ce qui est important, je trouve, c'est qu'elle soit bien réussie, donc il faut qu'elle soit bien chaude, croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur, et c'est pas si facile que ça. Non. Mais il y en a de très bonnes en France, il y en a de très bonnes en Belgique. Donc si on devait déposer ça au patrimoine mondial de l'UNESCO, il faudrait qu'on fasse un dossier franco-belge. Mais je serais scandaleux que la Belgique dépose un dossier et que l'UNESCO accepte de donner la primeur à la Belgique.
–
Sur la pomme de terre, je continue à tirer mon fil. Aujourd'hui, bien qu'elle vienne du Pérou, la pomme de terre, vous l'avez dit, hein, elle est cultivée dans le nord de la France, en Picardie, dans le Nord-Pas-de-Calais.
Partout dans le monde, maintenant.
Partout dans le monde. Je reste sur la France. Aujourd'hui, il y a des aliments qui sont moins faciles à cultiver que la pomme de terre, qu'on arrive quand même à faire pousser en France. Et nous avons, par exemple, du thé breton, des agrumes comme le yuzu qui sont cultivés en Corse. Ça, c'est une manière de contourner certains points noirs de la mondialisation, voilà. Sans y renoncer complètement.
Oui, là, le thé, j'ignorais complètement, parce que le climat breton me paraît... Le thé est une plante tropicale, c'est un camélia qui a besoin de chaleur. Il faut vraiment que le climat se réchauffe très fort pour qu'on arrive...
C'est une espèce particulière de thé.
Ah oui, c'est ça.
Mais
attendez, vous savez qu'on appelle thé parfois des herbes de toutes sortes séchées, et donc que les commerçants mettent thé des brumes.
Je crois bien que c'est du thé, mais je vérifierai.
Voilà, peu importe, moi, ça ne me gêne pas. Le changement climatique actuel, le réchauffement climatique, fait qu'il y a des plantes qu'on peut cultiver, qu'on ne pouvait pas cultiver auparavant.
Hein.
Vous avez des fruits, bon, on commence à cultiver des avocats,
il y a plein... De la mangue
De la mangue, je ne sais pas si...
Dans le sud de la France.
Bon, parce que la mangue a besoin aussi de très grosses chaleurs pour mûrir, c'est un fruit d'hiver.
Je crois qu'elles sont cultivées sous serre aussi, des conditions quand même particulières.
Voilà, mais enfin, bon, le kiwi, c'est un fruit chinois qui, curieusement, je ne connais pas très bien l'histoire, mais curieusement, le kiwi a eu un succès fou en Nouvelle-Zélande, qui est quand même très loin de la Chine, au point qu'on a pris pour le nommer, je ne parle pas du nom latin, mais on a pris un nom maori. C'est-à-dire que kiwi, c'est le nom du petit oiseau, qui est le symbole de la Nouvelle-Zélande, un petit oiseau nocturne, très, très spectaculaire, avec un bec long. Mm. Et donc, c'est un mot de maori, des populations arrivées avant les Européens en Nouvelle-Zélande. Et puis, comme ils se sont mis à cultiver ce fruit et que ça a eu un grand succès, ils ont donné le même nom parce que le kiwi ressemble un peu au petit oiseau. Mm. Donc, ils ont donné le même nom au fruit et ce nom a parcouru la terre entière. Tout le monde connaît le kiwi sans connaître son histoire.
Alors, le kiwi est cultivé dans de nombreux lieux, notamment aussi de plus en plus en France, mais à côté de ces aliments exotiques que l'on cultive depuis peu sur le sol français, il y a ceux que l'on cultive depuis des temps immémoriaux. En France, par exemple, on va venir visiter les vignes de Champagne, le vin de Bordeaux, les oliveraies en Provence, au point d'en faire un argument clé pour le marketing territorial, ces aliments qui font partie de notre paysage.
Oui, alors là, vous avez donné des exemples, l'huile d'olive, les vins.
Oui.
Ces produits originaux de grande qualité, de terroir, donc qui ont un peu la gueule de l'endroit, le goût de l'endroit d'où ils viennent, sont souvent des produits qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, qu'on appelle maintenant à l'échelle européenne appellation d'origine protégée, AOP, de façon à ce qu'à un peu les différencier, et ça aide à leur promotion et à leur vente, le fait qu'il y ait une appellation d'origine protégée. Mais ils ont une origine souvent très ancienne. Par exemple, les Gaulois ne savaient cultiver ni la vigne ni les oliviers. Donc ce sont les Romains qui ont introduit dans le midi de la France la vigne, enfin les Grecs un peu, mais surtout les Romains, la vigne dans toute la France, et l'olivier là où il pouvait pousser, c'est-à-dire dans les régions de climat méditerranéen. Mais la vigne, les Gaulois, ils achetaient déjà du vin avant la conquête romaine, mais ils ne savaient pas cultiver la vigne ni faire le vin. Ils faisaient de la cervoise, c'est-à-dire des céréales mélangées à de l'eau et fermentées, ce qui donne une boisson légèrement alcoolisée, euphorisante, surtout si on en boit beaucoup. Mais le vin, ils en achetaient, ceux qui avaient les moyens, en le payant très cher, puisqu'on a un texte de Diodore de Sicile qui dit que certaines tribus gauloises, c'était les chefs, hein, bien entendu, payaient une amphore de vin qui arrivait par les marchands étrusques, etc., qui circulait dans la Gaule, d'un esclave. Un esclave pour une amphore, c'est quand même cher. Mais à partir du moment où les Gaulois ont appris par les Romains à cultiver la vigne, ils se sont mis à en planter partout, même trop, parce que l'Empire romain souhaitait que la Gaule soit un grenier aussi pour l'Empire, qui manquait en Italie de céréales. Donc de voir les Gaulois abandonner les céréales pour cultiver la vigne, ça n'a pas plu. Il a même fallu l'arrêter de Domitien, leur interdire, et puis après ça a été à nouveau autorisé. Mais les Gaulois étaient fous de vin. Et ce goût est restés, malgré les invasions, malgré les... Parce que lorsque les Germains sont arrivés au moment des invasions, les peuples germaniques, ils ne connaissaient pas non plus la vigne et le vin. Ils pouvaient en boire, en acheter, en voler, mais ils sont tombés dans la marmite. Et en plus, dans la marmite, dans le tonneau. Et en plus, il y avait une autre raison qui militait en faveur du vin, c'est que c'est une boisson indispensable à l'exercice de la religion chrétienne. Or, oui. Comme ces peuples païens, barbares, se sont convertis au christianisme, il leur fallait du vin pour la messe. Et on connaît le rôle des moines, des monastères, dans la diffusion, le maintien de la culture de la vigne pendant les invasions, puis après sa diffusion tout autour. Et encore aujourd'hui, un des fleurons du vignoble bourguignon, c'est le Clos de Vougeot, 50 hectares d'un seul tenant, un domaine incroyable qui a été créé il y a 1000 ans par les moines de Citeaux. Et qui existe toujours. Alors, c'est plus les moines qui le possèdent depuis la Révolution, mais le clos existe toujours, sauf qu'il y a maintenant 80 propriétaires.
Bon, en tout cas, on comprend le vin introduit par les Romains. On est encore dans une histoire de circulation. Comment on peut comprendre cette contradiction ? Parce que nos assiettes racontent des échanges, et pourtant on aime bien y voir des identités fixes, bien rigides. Là, il faut distinguer l'aliment peut-être de la recette ?
Non, on a tort de vouloir fixer les choses. Aucune recette, quand on fait un peu l'histoire de la cuisine, on s'aperçoit que ça a constamment évolué. Les recettes, quand on voit dans les livres de cuisine du XVIIe siècle, on ne les fait plus aujourd'hui, ou elles n'ont plus d'intérêt, ou le goût en est passé, il y a plein de choses. Et puis, il y a des modes. Et puis parfois, des quasi-disparitions et des renaissances. Ouais, il y a deux plats que j'affectionne particulièrement. Il y a encore 20 ans, on ne les trouvait plus du tout à la carte des restaurants.
Ce sont lesquels ?
Alors, c'est le lièvre à la royale. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Il faut le réduire en compote. Une sauce qui est moirée, magnifique, liée au sang de lièvre, si possible, sinon de porc, à la fin. Et puis, un plat merveilleux qui a été inventé par un Français, mais en Angleterre, et qui a eu un grand succès en France, mais c'était passé de mode et on commence à en retrouver, c'est le bœuf Wellington, qui est un filet de bœuf servi saignant. Saignant, faut pas que ça coule, il faut que ce soit bien rouge, mais stabilisé à l'intérieur. Vous voyez, faut pas quand on coupe que le sang se mette à couler. Donc c'est très compliqué, parce que c'est cuit en croûte. De pâte feuilletée, avec une sauce magnifique, une sauce bordelaise ou une sauce périgueux aux truffes. C'est un plat qui a été inventé par Escoffier pour le duc de Wellington en Angleterre, qui était un grand gourmand. Et donc Escoffier a donné ce nom. Puis ce plat est passé en France, et on le fait d'ailleurs même encore en Angleterre, dans le restaurant Savoy, de l'hôtel Savoy à Londres, on trouve encore du bœuf Wellington. Et un plat aussi inventé par Escoffier que personne ne fait plus aujourd'hui, qui est l'omelette au haddock, que moi j'aime beaucoup.
Étonnant.
Au grill du Savoy à Londres, vous avez de l'omelette au haddock, magnifique. Mais il ne faut pas que l'omelette soit trop cuite. Enfin, l'omelette, c'est un plat alors qu'on élabore partout dans le monde. Vous avez des omelettes en Chine, des omelettes au Japon, des omelettes en Italie, des omelettes en Espagne. Pour moi, c'est l'omelette à la française baveuse qui est la vraie recette de l'omelette. Et c'est compliqué à faire.
Bien sûr. Et je crois, en ce qui concerne le lièvre à la royale, il est servi notamment au restaurant Le Grand Véfour, qui est l'un des premiers restaurants...
Alors, plus maintenant, parce que Le Grand Véfour a changé, est devenu pratiquement une brasserie, il n'est plus un restaurant gastronomique.
Il ne serve plus.
Dans notre quartier, vous l'avez chez notre voisin de la Monnaie, qui est Guy Savoie, membre de l'Institut, rentré à l'Académie des Beaux-Arts il y a quelques mois, et puis dans un autre restaurant du quartier, rue des Grands Augustins, qui s'appelle le Relais Louis XIII, qui le fait merveilleusement bien. Mais il y a quelques autres restaurants, par exemple au Basse-Cou, qui est ruré au mur aussi, qui est une recette d'Alain Saint-Drin, c'est formidable. Mais c'est un plat merveilleux. Et ben, je vais puisqu'on est au conseil, grâce à Guy Savoie et maintenant quelques autres amis travaillant dans la sommellerie, on a découvert un mariage, parce que normalement avec un plat aussi riche, tout noir, on sert un grand vin rouge, un grand Bourgogne, ou un grand Bordeaux, ou un grand Côte-du-Rhône, et ça se marie très très bien. Mais le sommelier de Guy Savoie a eu l'idée, par hasard, mais ça aussi, il faut beaucoup d'expérience, et puis oser ça était incroyable, de servir avec un grand sauterne. Un vieux sauterne, c'est un vin liquoreux, et si possible, un peu âgé.
D'accord.
Donc légèrement ambré, et très froid, avec ce plat qui doit être servi brûlant, et le mariage est absolument explosif. Ce qu'on a mis dans le dossier UNESCO du repas gastronomique des Français, une des spécialités, enfin une des inventions de la gastronomie française, c'est le mariage des mets et des vins. Et c'est Brillat Savarin qui en est l'inventeur réellement, quand il écrit... jusqu'à Brillat Savarin écrit La physiologie du goût en décembre 1825, donc il y a exactement 2 siècles, en fait, l'anniversaire, et il meurt 1 mois plus tard. Et dans La physiologie du goût, alors jusqu'à Brillat Savarin, on servait les grands repas de fête, en particulier dans la bourgeoisie ou l'aristocratie, ou à la cour royale, on mettait tous les plats ensemble d'un seul service sur la table. Vous aviez 20 plats sur la table et vous choisissiez ce que vous voulez, un peu comme lorsque vous allez dans un restaurant chinois ou un restaurant turc.
Une sorte de grand buffet où...
Oui, mais où vous êtes assis autour de la table, mais on met tous les plats sur la table et éventuellement vous avez des serviteurs, si vous voulez un morceau d'un plat qui est au bout de la table, qui va vous apporter ce morceau. Mais l'ordre, il n'y a pas d'ordre. Quand vous avez 20 plats, en plus il peut y avoir plusieurs services. Il peut y avoir 3 services à la cour royale, ce qui fait que dans un repas, il y a 60 plats. Comme ça existe encore dans les bons restaurants chinois en Chine, ou sur les tables. Alors, sont tournantes maintenant, moi j'ai déjà vu ça, où vous avez une accumulation, une vraie pyramide de plats, parce qu'ils en apportent sans arrêt, et vous mangez. Vous n'avez pas le temps de goûter chaque plat avant qu'ils apportent le suivant, parce qu'on en apporte 3 en même temps, et c'est des saveurs différentes, viande, poisson, légumes, et donc vous vous servez comme vous voulez. Et le repas dit à la française, c'était comme ça. Et plus il y avait de plats, plus c'était somptueux dans la présentation, plus le repas était luxueux et destiné à honorer l'hôte principal ou le roi. Mais avec un repas aussi complexe dans sa foisonnant, je dirais, on ne peut servir qu'un seul vin. On ne peut pas imaginer, d'accord, mais vin. Et Brillat Savarin, c'est l'époque aussi où on commence à mettre les vins en bouteille, à avoir des différences de goût bien marquées entre les vins, à les faire vieillir, à pouvoir les conserver. Donc on sait qu'un Bordeaux n'a pas le goût d'un Bourgogne, d'un Côte-du-Rhône, d'un vin de Loire, d'un vin de Champagne, d'un vin d'Alsace, etc. Et à ce moment-là, Brillat Savarin est l'un des premiers à théoriser l'idée que
chaque plat
doit trouver une harmonie avec un vin. Et il donne plein d'exemples. Et il écrit dans les aphorismes qui sont au début de la physiologie du goût, ceux qui disent qu'il ne faut pas changer de vin au cours du repas commettent une hérésie. Au 3e verre, la langue se sature et on n'éprouve plus que les sensations confuses. Et il a raison. Et en fait, le vrai repas à la française, c'est avec chaque plat, on change de vin. Et on essaye de trouver le vin qui va le mieux avec le plat ou... Moi, j'appartiens à l'Académie du vin de France, qui est une belle institution. Quand on fait un repas, on choisit 5 vins, en général 5, parfois 6, et on imagine avec le chef cuisinier qui nous reçoit les plats qui vont le mieux avec le vin qu'on veut servir. C'est, on fait à l'envers de ce qu'on fait. Tous les Français qui font la cuisine ont quelques plats de bravoure, ceux qui réussissent le mieux, qui font partie de la tradition familiale, dont ils sont fiers. Donc, on choisit le vin en fonction du plat. Mais on peut faire à l'envers aussi. En tout cas, ça procure des émotions gustatives extraordinaires et on peut en parler, parce qu'en France aussi, ça fait partie de l'art gastronomique français. La convivialité et le fait d'en parler. Si vous allez dans un pays anglo-saxon ou en Europe du Nord, il est dans la bonne société, il n'est pas très bien vu de parler de ce que vous mangez. En France, depuis très longtemps, depuis au moins le XVIIe siècle, parler de ce qu'on mange, quelque chose qui est très bien vu. Talleyrand, qui a exercé tous les pouvoirs en France pendant longtemps sous tous les régimes, mais Talleyrand était un très grand gastronome et pouvait, dans les repas diplomatiques, quand il recevait chez lui ou au congrès de Vienne, où il a exercé ses fonctions pendant plusieurs mois, pouvait, pendant tout le repas, dit-on, il y a des témoignages, ne parler que des plats qui étaient servis. Et en réalité, c'était un moyen de mettre les gens à l'aise, surtout alors les étrangers qui étaient éberlués, parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce rituel, et en fait de les faire parler sur d'autres sujets, évidemment aussi en matière politique ou diplomatique.
Et c'est même un art. Mais j'en reviens à cet accord mets vins, vous disiez que c'est l'un des critères principaux pour définir ce repas gastronomique des...
Le repas de fête, oui.
Le repas de fête des Français. Il y a d'autres critères qui...
Bah oui, il y a l'ordre des mets. On commence par les hors d'œuvre, puis des entrées froides, puis entrées chaudes, poissons, viande en sauce, viande rôtie, fromage, absolument le fromage. Hein, Brillat Savarin disait « un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil », puis dessert, ou au pluriel éventuellement, avec des vins associés, les arts de la table, l'art de mettre la table, avec les fourchettes, les dents vers la table et non pas en haut, comme tout le monde le fait aujourd'hui, hélas. Et ça, c'est une vieille histoire aussi, non pas de conflit, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi les Anglais mettent les dents en haut et les Français, alors... ceux qui sont un peu éduqués. Ah bah, Alors certains disent, ah bah oui, c'est à cause des armoiries, parce que les Anglais mettent les armoiries, le revers de la fourchette ou de la cuillère, pour ceux qui ont des armoiries dans les familles nobles, dans l'argenterie, et alors que les Français le mettent sur le dos de la spatule. Ça, c'est la conséquence. C'est pas la cause. C'est la conséquence du fait qu'en France, on a toujours mis les dents vers le bas parce que c'est moins agressif et parce que depuis le début XVIIIe siècle, on a fabriqué des fourchettes à quatre dents avec des pointes émoussées qui donc n'abîment pas la nappe si vous les mettez contre la nappe. Tandis qu'en Angleterre, on a gardé jusqu'au début du XIXe siècle au moins des fourchettes, et en Russie aussi, des fourchettes à deux dents très très pointu, exactement comme aujourd'hui les fourchettes à gigot qu'on trouve encore chez les brocanteurs, qui sont à, c'est très grand, mais très pointu parce qu'il faut pouvoir piquer la viande pour couper. Et donc ces fourchettes à deux dents, à partir du moment où on les a galbées pour qu'elles soient plus faciles à tenir, c'est-à-dire de façon, on ne pouvait pas mettre les dents vers la table parce que c'était trop pointu et ça risquait d'abîmer la table.
Les Français sont plus délicats et raffinés peut-être.
Je ne sais pas, parce que vous savez, moi, je fréquente beaucoup l'Extrême-Orient, le raffinement au Japon, on a beaucoup de choses à apprendre en matière de raffinement. Non, je crois qu'il y a du raffinement dans... Alors, le grand raffinement culinaire et des arts de la table et des manières de table, l'hygiène à table, etc., existe surtout dans les pays qui ont eu, ou qui ont encore parfois, une cour royale ou une cour impériale qui a été un foyer de création artistique formidable. On voit bien en France le rôle que Louis XIV a joué dans tous les arts, parce qu'il voulait qu'il y ait, comme il avait des origines espagnoles, italiennes, etc., et que la France était quand même encore un peu en hésitation sur son modèle culturel, Louis XIV a voulu qu'il y ait une version à la française de tous les arts, que ce soit l'architecture, la peinture, la sculpture, la musique, la danse, le vêtement et la cuisine. Louis XIV demande à ses cuisiniers d'inventer une nouvelle cuisine qui est révolutionnaire. Ça a été bien étudié. On voit les livres de cuisine de la fin du XVIIe siècle. La première moitié du règne de Louis XIV, il y a beaucoup de livres de cuisine qui paraissent, et avec des recettes complètement nouvelles. Les épices disparaissent, les saveurs acides, le verjus, les vinaigres disparaissent, et sont remplacés par le beurre, par les fonds de sauce. Puis après, donc on garde les légumes et les salades qui viennent, mais qui étaient déjà introduites à la Renaissance.
Est-ce que sous Louis XIV, on parlait déjà de terroir? Parce que la France, elle aime se penser comme un pays de terroir. Donc,
Non. La haute cuisine française, qui a longtemps été parisienne, et même dans les grandes familles aristocratiques de province, par exemple, je pense aux gouverneurs des provinces sous l'Ancien Régime, mais ils étaient nommés par Paris, et souvent ils avaient vécu à Paris, à la cour, avant d'être envoyés à Bordeaux ou à Aix-en-Provence. Et cette haute cuisine provinciale était à l'image de la cuisine parisienne. Et les plats paysans, on ne les servait pas dans la haute société. Ces plats paysans, appelons-les de terroir, si vous voulez, qui étaient des plats rustiques, souvent très simples, et pas aussi variés qu'on l'imagine aujourd'hui ou qu'on les voit aujourd'hui, ils sont mis à la mode par un journaliste écrivain formidable qui a commencé à parcourir la France en voiture. C'était le début de l'automobile et du tourisme automobile, c'est le début du guide Michelin en même temps, qui s'appelait Kurnonski. Kurnonski a passé sa vie à aller d'auberge en auberge, de restaurant en restaurant, partout en province, à écrire là-dessus, et il a mis à la mode les cuisines régionales, les cuisines de terroir, qui n'étaient pas du tout considérées comme nobles jusqu'à ce moment-là.
Là, on est à peu près dans quelle décennie ?
Dans les années 1930, 1940. Il est mort en 1956, je crois, après la Seconde Guerre mondiale.
Ce mot-là, terroir, ce concept, on l'utilise très peu à l'étranger. Il est typiquement français ?
Alors maintenant, il y a un certain nombre de pays qui, anglo-saxons par exemple, qui utilisent le mot terroir, prononcé à l'anglo-saxonne. Il est rentré dans les habitudes, comme le mot gastronomie, qui est un mot grec à l'origine, réinventé en 1800 par un poète qui s'appelait Berchou, qui écrit un grand poème qui s'appelle « La gastronomie ». Il exhume ce mot du grec ancien. C'était le titre d'un ouvrage d'un certain Archestrate qui avait voyagé en Sicile et dans tout le monde méditerranéen et qui décrit, alors ce livre s'est perdu, mais on en a des passages qui ont été sauvegardés, et il décrit tous les plats, les meilleurs qu'il a pu manger au cours de ses voyages. Et gastronomie, ça veut dire la législation de l'estomac, c'est pas très joli traduit en français, mais ce mot, l'art de bien manger, en quelque sorte, c'est comme ça que Brillat-Savarin va le définir après, cet art de bien manger que les Français appellent gastronomie, finalement, va se répandre dans le monde entier. Et dans tous les pays du monde, tout le monde connaît le mot gastronomie. Ce qui est un peu dommage. J'ai eu à pâtir de ça quand on a monté le dossier de reconnaissance du repas gastronomique français à l'UNESCO. C'est qu'il est souvent associé, même en France, chez beaucoup de gens, au luxe. Gastronomie, c'est cher, c'est luxueux, c'est
des
on a tort. Il faut lire Boya Savarin, encore une fois, La physiologie du goût. Boya Savarin a montré que la gastronomie, c'est simplement l'art de bien manger. Et donc, moi, j'ai toujours dit, un œuf à la coque peut être un plat gastronomique si l'œuf est bien choisi, qu'il a été cuit correctement, c'est-à-dire le nombre de minutes qui convient à sa taille, au jour de sa ponte, si on a du... pas trop ni trop peu, du bon sel, du bon poivre, une très bonne mouillette, grillée ou pas grillée, du très bon beurre. Et là, c'est une fête c'est extraordinaire divin. Qui coûte 30 centimes.
Vous mettez aussi en évidence, dans ce livre qui rassemble un certain nombre de vos chroniques, vous mettez en évidence certaines... Alors, fracture alimentaire, le mot est peut-être un peu trop radical, mais en tout cas, des frontières alimentaires en France, qui ne correspondent pas d'ailleurs forcément aux frontières politiques du pays. Par exemple, vous vous expliquez qu'il y a la France du beurre contre la France de l'huile.
Oui, alors là, c'est le géographe qui revient en force. La France est partagée en deux. Il y a une grande frontière, France du Nord, France du Sud, qui correspond alors à plein de choses. Par exemple, la langue Guedoc et la langue d'Oyle, les langues d'Oc et les langues d'Oyle, même si aujourd'hui, ça n'a plus de sens, mais il y a encore des gens qui parlent les patois ou les langues régionales dans le Midi. La forme des toits. Vous avez les toits à pentes fortes et avec petites tuiles au nord et les toits à pentes faibles avec des tuiles rondes au sud de la France. Et le droit, droit écrit, droit coutumier. Et c'est aussi la frontière traditionnelle, aujourd'hui ça a beaucoup bougé, entre la France du beurre et la France de l'huile. Ou de la Grèce, l'huile... C'est l'huile d'olive dans le sud-est, là où les oliviers peuvent pousser, et dans le sud-ouest, c'est la graisse de porc, de canard ou d'oie qui domine, tandis que le nord, c'est le beurre. C'est la même chose aussi entre l'ail et l'oignon. C'est la même frontière à peu près. Enfin,
oui, on consomme plus d'oignons dans le nord.
Dans le nord et plus d'ail dans le sud. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup varié. Et puis l'huile d'olive, par exemple, tout le monde consomme de l'huile d'olive, soi-disant c'est bon pour la santé. Et puis ça fait rêver aux vacances au bord de la Méditerranée.
C'est
donc,
le régime méditerranéen.
Voilà, huile d'olive, rosée de Provence.
Mais historiquement, comment on explique cette division? Vous avez expliqué,
c'est lié à la culture. Cette division s'explique par le fait qu'au moment des invasions germaniques, à partir du IVe siècle, le nord a été beaucoup plus germanisé que le Sud. Le Sud est resté beaucoup plus romain. Et ces habitudes alimentaires sont... Ou ce que j'ai dit sur la forme des toits. Le toit à pente faible et à tuiles canales, à tuiles rondes, c'est l'héritage du toit romain avec la teboula et l'imbrex. Alors que le toit à pente forte du nord de la France, dans les maisons anciennes, le toit à pente forte du nord de la France, qui est aujourd'hui couvert de petites tuiles plates ou d'ardoises, à l'origine, il était couvert de chaume. Et ça vient des Germains. Les Germains ont abandonné les techniques de construction des Romains, ne savaient plus faire des toits romains, parce que faire des grandes tuiles plates, etc., c'est très compliqué. Donc, ils couvraient leurs toits de chaume, de paille. C'est resté un peu en Normandie, c'est resté en Scandinavie, où il y a beaucoup de maisons encore couvertes de chaume. Et quand, surtout en ville, à cause des incendies, on a interdit le chaume sur les toits des maisons, on n'a pas détruit les charpentes, mais on a enlevé le chaume et on a mis des tuiles qui pouvaient s'accrocher facilement, qui sont des tuiles plates. On ne pouvait pas mettre les grosses tuiles romaines longues, et d'ailleurs elles auraient glissé. Voilà, on est dans du culturel et ça joue sur les paysages, mais ça joue sur l'assiette aussi.
J'avais une ou deux questions de fin, Jean-Robert Fitt. Est-ce qu'aujourd'hui, on continue à découvrir de nouveaux aliments? Je ne parle pas des aliments venus de loin et qu'on commencerait à exporter dans le reste du monde, mais bel et bien d'aliments que l'on découvre. Alors, j'en sais rien, des plantes aromatiques peut-être, des champignons.
Oui, enfin, pour moi, tout est comestible. En voyageant, on mange parfois des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Je n'aurais jamais pensé manger du chien ou manger des sauterelles, ce que j'ai fait en Corée, par exemple. Tout se mange, tout peut se manger. J'ai mangé du serpent en Chine, j'ai mangé de la tortue et bu du sang de tortue au Japon. Donc, il y a des quantités de plats auxquels on n'aurait pas pensé. C'est le premier qui a mangé des oursins, il fallait quand même aussi. L'oursin, c'est pas facile à ouvrir. Et puis, ça fait mal, c'est très piquant. Puis à l'intérieur, il y a quand même pas grand-chose à manger pour aller chercher ce qu'on appelle les gonades. Donc c'est génial. Et moi, quand j'étais petit, je détestais ce goût trop iodé. Et j'ai appris au Japon qu'il y avait des variétés d'oursins beaucoup moins iodées. Donc j'ai aimé l'oursin au Japon. Et revenu en France, j'ai réessayé. Et je me suis dit, mais c'est merveilleux. Tout est comestible.
La sauterelle, on dit que c'est la nourriture de l'avenir pour nourrir le reste de l'humanité.
Alors, tous les insectes, oui, on peut élever facilement des insectes, et ça donne une nourriture. Bon, il faut que ce soit bon. Moi, je ne suis pas un fan de la sauterelle, ça se coince dans les dents, parce qu'en Corée, on vend ça dans les... Et au Japon, ça a disparu maintenant, mais il y a encore 50 ans, ça existait. On vend ça sur les lieux de promenade ou de fête, et ça se grignote, c'est séché ou grillé, et ça se grignote comme ça. J'ai mangé du ver à soie en Corée, aussi, je ne me relève pas la nuit pour manger, mais j'essaye toujours de manger de tout, ce que devraient faire les Anglais qui se moquent de nous avec les grenouilles.
Et les escargots.
Bah oui, nous sommes les froggies pour eux. Je vois quand même que beaucoup d'Anglais dans les restaurants français commandent des escargots, hein, parce que ça les dégoûte a priori, mais quand même, ils veulent essayer.
Merci beaucoup, Jean-Aubert Pitt.
C'est moi qui vous remercie. Bon appétit, large soif.
J'invite tous les auditeurs à retrouver vos chroniques gastronomiques dans ce livre, donc à la table de l'histoire et du monde, qui est donc publié cette année aux éditions Talendier.
Les podcasts de l'Institut de France.